Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est violent, non? Cette parole de Dieu. Mais la violence de la parole de Dieu, elle est douce. C'est celle d'un Père vigoureusement déterminé à sortir ses enfants des ornières boueuses de ce monde. Alors comprenons bien le sens de ces paroles. En suivant cette règle d'or, toujours lorsque nous entendons l'enseignement de Jésus, ne prenons jamais, jamais les avertissements divins pour des menaces. Ce sont des avertissements, non des menaces. Frères et sœurs bien-aimés, la prescience de Dieu, son regard d'éternité sur notre vie, fait qu'il peut apercevoir les impasses dans lesquelles ses enfants s'égarent en vertu d'un mésusage de leur liberté. Alors il leur dit, n'allez pas par là, c'est dangereux, vous allez vous faire mal, vous allez tomber. Et comme toujours, en nous désignant l'écueil à éviter, il nous découvre en même temps un chemin meilleur à emprunter. Alors avons-nous bien saisi de quoi il s'agissait aujourd'hui pour ce dimanche et donc pour la semaine qui s'ouvre ? Il s'agit de deux écueils qui concernent en particulier les disciples, ceux qui suivent Jésus, qui se sont engagés à ses côtés dans la mission. Et Jésus, je crois, désigne deux pathologies qui concernent ses disciples. Deux postures spirituelles qui sont capables de bloquer la dynamique de la mission. Et ces deux postures sont, je les nomme, la jalousie d'abord, et puis ensuite, le perfectionnisme. D'abord, la jalousie. Dans le livre des Nombres, par ce qui survient pour Eldad et Médad, on comprend ce que c'est. La communauté venait de vivre une sorte de, on dirait aujourd'hui, effusion de l'esprit qui déclenche des charismes de prophétie sur 70 anciens qui ont une mission reconnue qui consiste à assister Moïse. Il se trouve que deux hommes, donc Eldad et Médad, qui font partie du collège des élus, n'étaient pas là le jour J. Et pourtant, on les entend prophétiser. Scandale ! Ils ne rentrent pas dans les cases, ils n'ont pas suivi le protocole, ils n'ont pas vraiment communié à l'événement vécu par la communauté. Alors, la jalousie et la malveillance s'invitent. Josué va les balancer. Il y a quelque chose qui nous échappe, injustice, scandale. Alors on va rapporter à Moïse l'irrégularité scandaleuse. La délation des jaloux. Tentation des anciens du gaz comme des convertis de l'avant-veille. Vous n'avez pas le pass, que faites-vous ici? Ils n'ont pas le pass. La jalousie et la délation. Insoutenable légèreté de l'être anobli par la grâce, de l'être qui a tôt fait d'occulter son humble extraction, d'où il vient, et qui se met à regarder le monde et les gens dans un prisme bien étroit, bien loin des pensées de Dieu. Un Dieu au nom duquel Moïse remet immédiatement les délateurs en place et leur dit, je le dis en d'autres termes, ben ils sont bien ces petits gars-là, au contraire. Ça serait bien qu'il n'y en ait pas seulement deux, mais bien davantage. Dans la même veine, Jésus, le nouveau Moïse, sera encore plus explicite. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Mon père, il y a une secte évangélique qui fait le comble près du périph' en ce moment. Vous êtes au courant? Saint Paul écrira, peu importe, pourvu que le nom du Seigneur soit prêché. Si ça peut préparer ou réveiller quelques catholiques endormis, tant mieux. Si ça peut servir de propédeutique aux catholiques de demain, tant mieux. Là, ils prennent l'apéro, mais demain, ils ne tarderont pas à venir se restaurer à la maison. C'est très bien. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Le bien n'est jamais une menace pour le bien. Le bien n'est jamais une menace pour le bien. Le second écueil, c'est le perfectionnisme. Une fois qu'on a compris le premier, on peut dire « j'ai compris », dit le disciple, fermement décidé à adopter la largeur et la profondeur des vues de Dieu, D'accord, je ne regarderai plus jamais jalousement alentour, je ne m'inquiéterai plus du bien qui s'accomplit au-delà de ma communauté, voire je bénirai le Seigneur pour cela, j'ai compris, mais en se concentrant à nouveau sur l'œuvre que le Seigneur lui confie, il y a une nouvelle inquiétude qui surgit. Je perçois dans ma propre existence, dans ma personne, en moi-même, que le travail reste démesuré. Je doute de ma propre conversion. Et là, ça fait mal. J'ai reçu le baptême il y a quelque temps et je me dis, qu'est-ce qui a changé ? Je croyais être passé du côté de la lumière, mais j'ai un pied, enfin non, juste un petit orteil qui reste dans l'ombre. Comment faire ? Eh bien, coupe-le ton orteil, dit Jésus. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il vaut mieux entrer au ciel avec 9 orteils que d'aller en enfer avec 10. Traduction libre. Dans un commentaire de l'Évangile sur Saint Jean, saint Thomas d'Aquin écrit ceci, et ça me semble bien être l'idée, il vaut mieux boiter sur le chemin que marcher à grands pas hors du chemin. Car celui qui boite sur le chemin, même s'il n'avance guère, se rapproche du terme, mais celui qui marche hors du chemin, plus il court vaillamment, plus il s'éloigne du terme. La sagesse est simple. Le plus important est de marcher sur le chemin de la sainteté, et non pas d'avoir l'air saint en partant dans le décor. Les saints, ce sont des personnes qui marchent sur le chemin de la sainteté, on est bien d'accord. Mais si vous faites un petit effort d'observation, vous pourrez remarquer qu'ils avancent toujours en boitant quelque part. Vous savez, ces fameux pas de géant qu'évoque Sainte Thérèse dans ses écrits, ils sont réalisés précisément à partir du moment où elle a consenti à ne plus être parfaite, sans renoncer le moins du monde à la perfection. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, si on évite le premier écueil en bénissant le Seigneur pour le bien qu'il fait ailleurs, ailleurs que chez nous, ailleurs que chez moi, on évitera celui-ci, eh bien, en osant se réjouir de ses limites, de ses manques, de ses ratés, que nous pouvons miséricordieusement voir assumés par le Seigneur, et si possible, assumés d'avance, en amont. Dieu me préfère trottinant avec mes 9 orteils que perdu avec mes 10. Il m'aime dans tous les cas, mais il m'invite à préférer le salut de ma personne à celui de mon orteil. D'autant que, peut-être qu'avec la résurrection de la chair, on peut imaginer qu'une certaine intégrité sera restituée jusqu'au bout des pieds. Enfin, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte devenu célèbre qu'on appelle le Credo de l'espérance. Vous pouvez le retrouver assez facilement. Il a été rédigé par un groupe d'handicapés sur lequel l'Esprit du Seigneur a dû tomber en leur accordant alors l'esprit de prophétie. Et ces paroles ont été recueillies et gravées sur des tablettes de bronze qui sont affichées dans un centre de rééducation physique à New York. C'est écrit en lettres capitales, c'est très beau. Voici ce texte. J'avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'avais demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que j'en fasse de meilleures. J'avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je puisse être sage. J'avais demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'avais demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères. J'avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie. J'ai reçu la vie afin de me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis parmi tous les hommes le plus richement comblé. Chers amis, Jésus-Christ, le Saint des Saints, homme parfait, parfaitement homme, sainteté incarnée, lui-même a réalisé au plus haut point l'idéal chrétien qu'il nous désigne ici. En vrai maître, il ne saurait enseigner à ses disciples ce qu'il n'a pas lui-même accompli. Et les deux écueils que je viens d'évoquer, d'abord le premier, il l'a assurément évité. Il sait que jusqu'à la fin des temps, son nom, son image, la puissance des paroles de Jésus seront utilisées. Mais d'une part, il veut d'abord espérer a priori que cela puisse toujours servir à l'avènement du royaume. Et si ce n'est pas le cas, c'est un risque à prendre et que Jésus veut prendre. Jésus donne. L'évangile est gratuit. La bonne nouvelle est pour tous. Le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et les méchants, sur les doctes et sur les imbéciles. C'est pour tous. Deuxièmement, il évite le second écueil au plus haut point. Quand on voit le spectacle effrayant de sa passion et sur la croix, sa mort, on discerne le summum de l'humilité, voire le Créateur du ciel et de la terre, le Sauveur de tous les hommes, qui se laisse blesser, réduire au néant, jusqu'à la mort, dépouillé de tout, humilié au plus haut point. On lui volera jusqu'à ses habits et sa dignité, on blessera son côté. Eh bien, à la vue de ce spectacle terrifiant, hésiterions-nous à continuer à avancer avec nos petits ou nos gros bobos, à demeurer sur le chemin du salut, fût-ce en claudiquant? Ne devons-nous pas dire plutôt avec le bon larron, pour nous c'est justice, car nos actions ont mérité le châtiment que nous recevons, mais lui n'a rien fait de mal. Frères et sœurs bien-aimés, la vie chrétienne, c'est d'abord la vie du Christ. La vie de disciple, c'est d'abord la vie du Maître. Et le service du Maître doit être accompli dans l'esprit qui l'inspire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous prie, à travers sa parole, d'entrer dans ses vues en adoptant sa bienveillance, sa largeur de vue, en renonçant à toute forme d'inquiétude déplacée. L'esprit du Seigneur est large, son cœur assume sereinement nos misères. L'essentiel est de parvenir à bon port. Seigneur, inspire-nous de te bénir pour tout bien qui s'accomplit et dont nous confessons que tu es l'unique origine. Garde-nous de nous inquiéter de ce qui nous manque, de ce à quoi il faut renoncer, de nos handicaps et de nos limites, pourvu que nous soyons tiens et que nous avancions avec toi le chemin, la vérité et la vie. Amen.